Découverte, rencontre, création. Partageons-les sur Calade.
Ma radio.
Rencontre avec Katerina Apostolopoulou, poétesse, traductrice et passeuse de langue entre la Grèce et la France. Née en 1981 à Volos, en Grèce, elle suit des études de lettres et de civilisation française à l'université d'Athènes avant de s'installer à Paris. Après un DEA de littérature comparée à la Sorbonne, elle construit une œuvre attentive aux voix discrètes, aux existences modestes, à cette humanité silencieuse que la poésie éclaire soudain. Dans ses textes, notamment dans « J'ai vu Sisyphe heureux », publié aux éditions Bruno Doucet, il est question des petites gens, du travail, de l'exil, de la transmission, mais aussi de ce qui relie encore les êtres, malgré les fractures du monde. Une poésie profondément incarnée, humaine et fraternelle, où la simplicité du regard devient une manière de résister. Katerina Apostolopoulou, pour qui écrit-on vraiment quand on écrit ?
Déjà, est-ce que ce qu'on écrit, ça s'adresse à quelqu'un ? C'est déjà une question. Est-ce que ça s'adresse à quelqu'un dès le départ ? En tout cas, pour mon cas, il y a un besoin d'écrire. Il y a un besoin d'écrire pour comprendre déjà et élaborer le monde. Et après, pour partager ce ressenti avec. Avant d'être publiée, moi je suis publiée seulement depuis il y a 5 ans, mais j'écrivais beaucoup avant. Je pense que j'écrivais beaucoup plus avant d'être publiée d'ailleurs, parce que depuis, avec mon livre, je suis beaucoup sur le terrain, j'ai fait beaucoup écrire les autres. Et du coup, j'ai découvert avec cette publication le partage du poème, qui est vraiment une autre histoire que d'écrire un poème. On peut écrire pour les garder dans nos tiroirs et c'est déjà un acte précieux. On peut écrire pour vivre ensemble et partager des mots et c'est encore autre chose.
Quelle poétesse êtes-vous ?
Je suis une poétesse qui vient de Grèce déjà. J'écris des poèmes qui voyagent entre les deux langues. Je viens du monde du théâtre, donc... qui suis tournée pas mal ces dernières années vers une poésie narrative. Donc souvent dans mes textes, il y a des histoires qui sont racontées, des histoires en vers. Et sans me rendre compte, petit à petit, en fait, je reviens vers les sources de mon pays, vers un poème qui raconte et qui récite, comme c'était dans l'Antiquité, les exploits des personnalités importantes. Bah, moi, c'est le contraire. Moi, très souvent, je raconte la vie des petites gens. Ma poésie, elle est très tournée vers l'humain. Je me rends compte en préparant un petit peu notre entretien qu'il y a très peu de nature et très peu d'animal dans ma poésie. Je pense que si j'étais peintre, je serais portraitiste ou je dessinerais plein des scènes de la vie du quotidien. En fait, le mécanisme de l'humain m'attire beaucoup. Ma poésie parle du temps qui passe, de la mort, de la maternité beaucoup ces dernières années parce que j'ai eu la chance de vivre ce miracle aussi, qui est un poème en soi. Et je viens du pays des mythes, donc je pense que mes poèmes sont aussi beaucoup, si ce n'est pas inspiré, complètement influencé par la mythologie qui m'habite depuis toute petite.
Quelle est votre raison d'écrire ?
Je crois qu'écrire, pour moi, en tout cas ces dernières années surtout, c'est résister. Résister à la violence. Du monde, de résister au fascisme et au totalitarisme qui monte, et je parle des grands fascismes, je parle de tout petit fascisme qu'on vit dans le quotidien, pour résister à la laideur, c'est pour mettre du beau, du bon et du fort dans mon quotidien, et pour motiver aussi, pour insuffler cette beauté le plus que je peux. Pas seulement dans mon quotidien, mais avec les gens aussi que je rencontre et que je croise. C'est vrai que je fais de plus en plus des scènes où je lis mes textes ou des textes d'autres personnes. Et même dans ce travail de choix des textes à partager, à lire, à offrir, j'ai découvert un vrai métier à travers cet acte d'écrire de la poésie. Comme je disais avant, c'est quelque chose qui n'a rien à voir. On peut écrire juste pour soi ou pour partager avec son amoureux et ses amis. D'ouvrir ces canaux vers un public plus large donne encore plus de sens à l'acte d'écrire et nous permet aussi de trouver un peu notre place dans le monde. Très souvent, je me demande si les choses vont encore pire dans ce monde. Qu'est-ce que je fais quelle est ma place, quel est mon rôle, comment je peux contribuer et à quoi la poésie finalement peut être utile. Et je parle vraiment utile au sens très pratique, très premier, comme un bateau pour fuir d'une île. Et je pense que ça l'est. Je le vis dans le quotidien. Je pense qu'elle donne vraiment la force, qu'elle inspire. Et je crois qu'on a besoin de ça, d'être inspiré tout dans notre vie aujourd'hui, dans le rythme de notre siècle, nous pousse vers quelque chose qui se referme, qui s'isole et crée des liens pour vivre ensemble et créer ensemble et choisir une direction ensemble. C'est précieux.
À quel moment la résilience cesse-t-elle d'être nommée pour être pleinement incarnée ?
Avec le terme résilience, moi je suis un peu dubitative, j'avoue. Je ne sais pas si j'y crois vraiment. Je pense que nos traumatismes, nos blessures et nos plaies sont toujours avec nous et restent toujours ouvertes, quelque part. Et c'est pas grave, c'est très bien ainsi. Et c'est avec ça et malgré ça qu'on construit. Je ne sais pas si un jour on est vraiment plus fort. Je pense qu'on est plus fort lorsque nous sommes ensemble. Je pense que nous sommes seuls par destin. Et que nous sommes des êtres politiques pourtant. Et que toute notre vie, c'est de nous battre pour ne pas rester seuls. Pour créer ensemble, pour faire ensemble, pour choisir ensemble. À quel moment ça s'est vraiment incarné ? En fait, moi par exemple, au moment où j'écris, je me sens très reliée à plein de choses, à plein de personnes, à quelque chose qui dépasse de loin ma toute petite vie et tout ce que j'ai connu et tout ce que je vais connaître jusqu'à ma mort. Je me sens connectée à des choses universelles et je me sens connectée à des gens qui ont écrit et m'ont offert leurs mots et qui sont morts depuis des siècles et connectée même avec les êtres à venir. Et je ne sais pas si le mot résilience rentre là-dedans, mais en tout cas, il y a quelque chose dans l'écriture qui peut être incarné et qui peut très concrètement porter ce corps plus loin.
J'ai vu Sisyphe heureux, c'était avant ? Avant quoi ?
J'ai vu Sisyphe heureux, c'était juste avant de tomber enceinte. Donc c'était ma toute première grossesse, c'est mon premier et unique pour l'instant livre de poésie qui a été publié en 2020. Donc, ça fait un petit moment déjà. Et c'était le résultat d'une magnifique rencontre. C'est la rencontre avec la maison d'édition Bruno Doucet, donc la rencontre avec Bruno Doucet et Muriel Zach, qui m'ont beaucoup guidée pour reprendre le chemin vers mon pays. Moi, je suis arrivée en France quand j'avais 23 ans et je me suis plongée dans la langue française pour me reconstruire. On parlait tout à l'heure pour résilience, je suis arrivée et j'étais une plaie ouverte. J'étais très vieille quand je suis arrivée en France et la langue française, c'était un bain de jouvence pour moi. Je me suis plongée en elle et j'ai redécouvert un monde. Au moment où je commence à écrire vraiment en français, je pense que je reconstruis une vie à partir presque pas de zéro, puisque plein de choses y sont déjà, mais que je les nomme à ma manière à moi. Je n'ai plus besoin d'utiliser mes anciens mots. Et Bruno et Muriel sont les premières personnes qui me guident à nouveau vers mon pays. Ils me demandent d'écrire sur mon pays. Et c'est un processus très pénible au début, parce que je ne me sens pas prête, parce que ça me fait trop de mal. Et sans le savoir, sur le chemin, pendant le chantier, je découvre que je ne suis capable d'écrire sur le pays qu'en écrivant dans les deux langues en même temps. Donc c'est des poèmes vraiment qui, au moment de leur création, voyagent d'une langue à l'autre. Et quand le français devient trop lointain, le grec reprend le relais. Et quand le grec devient trop émotionnel et il y a trop de passion, bah le français lui redonne la bonne distance. Donc Sisyphe, c'était une expérience extraordinaire qui m'accompagne depuis, parce que depuis, je sais que j'ai cette arme. En fait, quand on écrit dans les deux langues, c'est bizarre et chouette en même temps. C'est comme les rêves qui maintenant sont dans les deux langues. Ça dépend du message que j'ai envie de me faire passer. Donc je rêve soit en grec, soit en français, et peu importe des personnes qui interviennent dans le rêve. Du coup, maintenant, il y a des sujets, il y a des thèmes sur lesquels je ne peux écrire pour l'instant que en grec, et le contraire. Mais il y a des choses qui se construisent dans mon présent, qui concernent ma vie quotidienne, qui se font dans les deux langues. Et c'est étonnant parce que chaque langue, c'est un jardin différent, vraiment séparé. Et les choses qui poussent dans l'un ne peuvent pas pousser dans l'autre. On n'aime pas de la même façon un grec et un français. On n'aime pas, on ne rêve pas de la même façon. La tendresse n'est pas la même. Les petits mots de douceur qu'on va trouver, c'est étonnant. Par exemple, en grec, on dit mes yeux à quelqu'un qu'on aime, comme si c'était vraiment nos yeux. Avec lui, on voit le monde, c'est lui. Donc tous ces petits passages-là m'accompagnent vraiment et deviennent beaucoup plus concrets depuis Sisyphe. Et Sisyphe, c'était juste avant Adèle. Deux mythes très forts que je porte depuis.
Que penser de les mots, M-O-T-S, pour soigner les mots, M-A-U-X?
Je crois qu'on a besoin de mots. Et que les mots soignent, et que les mots consolent. Et plus que ça, le mot construise. Le fait de dire, c'est déjà faire. Je parlais tout à l'heure des rêves. Dans les rêves, c'est très concret. C'est quelque chose qu'on nous dit, c'est déjà fait. C'est un événement. Les mots sont des événements. Et de chercher comment les agencer pour faire en sorte que cela arrive. Vous savez, il y a des textes, il y a des poèmes. Quand on les lit, c'est pas le cerveau seulement qui se met en marche. C'est tout le corps qui reçoit. C'est une explosion, c'est un bouleversement, c'est une petite révolution. Donc, évidemment, les mots soignent. Évidemment, les mots face aux mots. Et quand on pense au malheur qu'on traverse aujourd'hui, à ce monde qui devient de plus en plus fou et qui s'accélère à une vitesse incroyable et qui nous dépasse complètement, et qu'on s'est dit qu'on a encore les mêmes armes, mais qu'il faut les imaginer différemment. Il faut toujours continuer à faire vivre nos langues et à les faire danser et explorer et faire naître de nouvelles choses grâce à elles et à travers elles. Elles soignent les mots, ils soignent.
L'univers de Katerina Apostolopoulou, fiction ou réel?
Oh, rien n'existe pas sans l'autre. Jamais l'un ou l'autre, toujours l'un dans l'autre, toujours, toujours. Le réel a très peu d'importance et en même temps il est tellement précieux. Et Sisyphe, pour moi, pour ça, c'était une très belle expérience parce que il est inspiré des personnages réels. Ça raconte des histoires réelles et pas du tout en même temps. En fait, pour donner ce que la réalité nous a fait, on doit mentir. Pour être exactement sincère, on doit mentir. Si on dit vraiment la vérité, l'autre ne perçoit rien de ce qui nous est arrivé. Donc, fiction et réalité, bien sûr.
Nous feriez-vous l'honneur d'un extrait de lecture en grec, puis de sa traduction?
Alors, Audrey, j'ai choisi pour vous un texte qui mélange le grec et le français. Donc, ça ne sera pas exactement la traduction, mais c'est un texte qui est écrit dans les deux langues, en tout cas, pour sa première partie. Si je te dis que η θάλασσα κυλάει πράσινη από τα μάτια μας, qu'est-ce que tu vas comprendre? Est-ce que tu peux la voir, cette mer petite et verte qui coule de nos yeux? Si je te dis τα βράχια χτυπάνε ακόμα στα αυτιά μου, ça se glira des pètes, qu'est-ce que tu vas comprendre? Est-ce que tu les entends, les rochers qui s'entrechoquent et qui écrasent à chaque fois les plumes de nos ailes? Si je te dis, αγαπώ τα χέρια τους, μυρίζουν πάντα χώμα και αλμύρα. Qu'est-ce que tu vas comprendre? Comment feras-tu pour reconnaître cette odeur de terre et de sel si elle ne t'a pas guéri mille fois lorsqu'ils glissaient leurs mains sur ton front? Mais si je dis, δώσ' μου το χέρι σου, donne-moi ta main, glisse tes doigts entre les miens, danse-moi telle une langue dans ta bouche, nourris-moi avec ce que tu donnes à tes enfants. Endors-moi sous le ciel qui t'a vu nu. Toi et moi, on comprendra pareil, mon frère, mon ami. Viens, nous sommes nés tissés. Viens que je me tisse dans tes histoires, que tu te tisses dans ma vie. Que l'on se tisse à l'endroit et à l'envers, bonne année, mauvaise année, vague après vague, ciel après ciel. Car il est temps, mon amour, dans ce monde, de parler de toi et de moi. Un seul chant. Et faire taire les petits diables qui dictent qu'on s'est trompé de siècle, de pays, de planète. Un seul chant. On ne s'est pas trompé. Emporte-moi dans ce pays qu'on enfante nuit après nuit, rire après rire, fenêtre après fenêtre. Emporte-moi dans ce mélange des mots qui sonnent juste dans nos bouches. Tes mots dans la mienne, mes mots dans la tienne. Roule, mais erre, sur ton dos et laisse-moi me battre avec tous tes un et en qui me mettent KO. La bouche de notre fille est notre delta. Elle coule, elle roule cette bouche avec des oui et des nez. Tiens maman, tovo tsalo, tofilaki. Tiens maman, imeyasen, imeyasen, imeyasen. Laisse-moi me reposer ici, dans cet entre-deux de nos langues. C'est ici que le monde est beau, vaste et paisible, comme un enfant qui dort.
Dans l'œuvre de Katerina Apostolopoulou, la poésie n'est jamais un refuge hors du réel. Elle est au contraire une façon de regarder autrement les vies ordinaires, les gestes modestes, les fragilités humaines. Et peut-être est-ce cela au fond, voire sisyphereux, continuer à chercher de la lumière dans ce qui paraît le plus lourd à porter.
Découverte, rencontre, création, partageons-les sur Calade. Ma radio.